RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Il y a un an, le rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église catholique provoquait un séisme en France. Un rapport qui révélait que plus de 300 000 jeunes avaient été victimes de pédophilie depuis les années 50 au sein même de l'institution. Un nombre qui se révèle d'ailleurs bien supérieur à tout ce qui avait été évoqué jusque-là. Alors, un an après ce rapport, où en est-on? Quelles conséquences ce rapport a-t-il eu dans l'Église, chez les prêtres et chez les fidèles? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis et on regardera de plus près dans la seconde partie de l'émission ce qui a été mis en place dans les diocèses, notamment en termes d'écoute et de prévention. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus à l'antenne avec vos témoignages et vos réactions. Est-ce que vous avez pu lire ce rapport Sauvé? Est-ce que vous avez pu constater quelques évolutions au sein même de l'Église sur la place du prêtre et sur la conception du clergé? Et avez-vous le sentiment que les préconisations ont été prises au sérieux? On vous attend au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. Vos témoignages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et bien sûr dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Véronique Alzieux, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous. Le 5 octobre 2021, la tension et l'émotion étaient lourdes et palpables. Après 2 ans de travaux, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, remettait son rapport à Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, ainsi qu'à Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Le résultat de ces travaux était aussi attendu que redouté au sein de l'Église catholique, car on pressentait bien l'ampleur du désastre. Et vous l'avez dit, Melchior, le désastre a été confirmé. Le rapport Sauvé a révélé qu'environ 330 000 abus ont été commis au sein de l'Église catholique depuis les années 50. Abus essentiellement commis par des prêtres, mais aussi par des laïcs en mission ecclésiale. Les chiffres, les informations et les analyses du rapport Sauvé ont été abondamment commentés, de même que les 45 préconisations qui y figurent. Le séisme provoqué par ces révélations a suscité une forme de sidération, parfois d'incrédulité, mais la parole, enfin, a été libérée. Désormais, les victimes se sentent autorisées à parler, mieux, elles se sentent désormais écoutées, et des lieux d'accueil, d'accompagnement les soutiennent et les guident dans leur démarche. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Quel bilan peut-on faire de l'année qui vient de s'écouler depuis la remise de ce rapport? Les mentalités, le fonctionnement de l'Église, les prêtres ont-ils pris acte du scandale? Et où en est-on dans la mise en pratique des préconisations du rapport Sauvé? C'est donc le sujet de cette émission, Melchior.
Et on en discute dans cette première partie avec nos 3 invités.
Véronique Garnier, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du service des mineurs du diocèse d'Orléans. Vous avez été victime d'abus de la part d'un prêtre quand vous étiez jeune adolescente et vous avez publié chez Arthège en 2017 un livre intitulé « Au troisième jour, de l'abîme à la lumière ». Et puis au mois de mai 2022, chez Mediapol, un autre livre, « La vérité nous rendra libres, parole de femme dans la crise des abus ». Ce livre, vous l'avez coécrit avec Carline Demazur et Anne Descours. Avec nous également Patrick Goujon, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté également notre invitation. Patrick Goujon, vous êtes jésuite, théologien, auteur d'un livre très remarqué intitulé « Prière de ne pas abuser ». Ce livre est paru aux éditions du Seuil. Dans ce livre, vous racontez la sortie de l'amnésie traumatique dans laquelle vous étiez plongé suite à l'agression sexuelle que vous avez subie de la part d'un prêtre lorsque vous étiez adolescent. Ce livre a reçu le prix de la liberté intérieure 2022. Également avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Derain de Vaucresson. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes présidente de l'INIR. L'INIR, c'est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Vous nous expliquerez dans quelques instants de quoi il s'agit. Véronique Garnier, j'aimerais savoir ce que le rapport Sauvé a changé pour vous, a changé en vous, un an après sa remise.
Alors, moi, je peux dire que j'avais la chance d'être sur place le 5 octobre dernier à Paris pour la remise du rapport. Et ça a été un moment très, très émouvant, très fort, où on a beaucoup pleuré, mais en même temps, c'était pour moi un grand soulagement. Et aujourd'hui, personnellement, vraiment, un an après, je pense que sur le moment, je me suis dit, eh bien voilà, les paroles que j'attendais ont été dites, ont été posées avec une certaine autorité par Monsieur Sauvé et par bien sûr au nom de la CIAZ qui avait travaillé pendant si longtemps. Ces paroles que j'attendais sont posées et d'une certaine façon, je n'ai plus à avoir honte. Peut-être je vais avoir moins honte d'avoir été abusée par un prêtre dans mon enfance. Et un an après, eh bien, j'ai l'impression que oui, quelque chose de la honte qui m'habitait a quand même un peu disparu. Alors c'est un soulagement et puis du coup je me suis dit maintenant peut-être libérée de cette honte, je peux prendre en main peut-être encore plus que jamais eh bien ce chemin de résilience que j'ai déjà entamé.
Patrick Goujon, j'ai envie de vous poser la même question. Un an après la remise de ce rapport Sauvé, qu'est-ce qui s'est passé en vous et comment ce rapport Sauvé a-t-il œuvré aussi en vous dans le sens d'une résilience et d'une guérison, si ce mot est adéquat?
J'étais dans la même salle que Véronique Garnier ce 5 octobre de l'année dernière. La première impression qui était très forte, c'était d'avoir enfin été entendu par une institution et par l'institution ecclésiale. C'est considérable en fait pour des victimes qui souffrent de leur propre silence et parfois de la surdité de l'institution. Là, il y avait une manifestation publique de la prise en compte des victimes, de leurs paroles, de leurs souffrances et de la responsabilité ecclésiale. Moi, je dirais, l'année a été marquée donc par ce rapport, sa réception, par aussi ce qui a suivi un mois après à Lourdes, au mois de novembre, avec la reconnaissance par la conférence épiscopale en particulier, puis la COREF, mais vraiment l'acte fort a été cette cérémonie mémorielle à Lourdes et ce très long discours très bouleversant d'Éric de Moulin-Beaufort de reconnaissance de la responsabilité. Ça, je pense que c'était des étapes absolument essentielles pour les victimes et pour moi, personnellement, ça a été voilà un cap en fait de franchi.
Marie Derain de Vaucresson, vous étiez vous aussi présente au moment de la remise du rapport Sauvé ou bien vous êtes entre guillemets entrée en scène un peu plus tard?
Alors j'étais présente même si je suis entrée en scène un peu plus tard puisque j'ai contribué de plusieurs places au rapport Sauvé et puis j'avais déjà été sollicitée pour prendre cette responsabilité de la présidence de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui ne s'appelait pas encore comme ça et qui n'existait vraiment pas dans sa forme. Alors j'y étais comme personne qui allait agir spécifiquement sur ces questions dans un état d'esprit, une disposition qui était oui mais, c'est-à-dire qu'à l'époque du rapport Sauvé, on n'avait pas encore tout à fait les orientations telles qu'elles ont été posées par la suite et comme vient de le dire Patrick Goujon, par la démarche absolument essentielle qui s'est passée à Lourdes avec la célébration mémorielle, mais aussi la teneur des échanges entre les évêques. Il y a véritablement eu un retournement à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut dire que l'INIR, donc cette instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, est en quelque sorte la suite de la commission Sauvé? Est-ce que c'en est un peu la fille?
Alors, c'est pas en quelque sorte, c'est précisément la suite de la commission Sauvé, puisqu'elle a été configurée à partir des recommandations de ce rapport et dans des évolutions par rapport à ce qu'avait imaginé la conférence des évêques de France en mars 2021, qui prenait en compte précisément ce qui était dans le rapport Sauvé, notamment dans son caractère d'indépendance, dans la dimension de réparation et de réparation individualisée.
Alors, on va présenter en quelques mots l'INIR pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Qui compose cette instance et quelle est sa vocation de manière très concrète? En quelques mots, si c'est possible.
Oui, je vais essayer de faire très court. Sa vocation, elle est de contribuer à la réparation des personnes victimes au sens de la justice restaurative, c'est-à-dire de permettre d'atteindre un niveau d'apaisement pour la personne victime et aussi de mettre en route les responsables à l'origine du mal-être de la personne victime. Je le dis dans des termes extrêmement simplifiés. L'enjeu, c'est de réparer d'abord, contribuer à la réparation d'abord des personnes victimes, mais aussi du lien entre les personnes victimes et en l'occurrence ici l'Église. C'est une démarche qui existe dans la justice civile depuis très longtemps en Amérique du Nord, beaucoup plus récemment en France, et qui a vocation à permettre cet apaisement à la fois de la personne et du lien entre la personne et les responsables de son mal-être, qui s'exprime dans tous les empêchements que décrivent très bien le rapport de la CIAZ.
Les abuseurs, donc.
Les abuseurs ou les agresseurs, ouais, comme on dit en démarche de justice restaurative, d'accord, d'ailleurs. Mais c'est aussi là, dans cette démarche, une réparation indirecte. C'est-à-dire que les évêques ont reconnu que l'Église avait une responsabilité et que, indirectement, comme responsable, c'était aussi la leur de responsabilité, qu'ils devaient l'assumer et contribuer à la réparation des personnes victimes. C'est dans ce sens que l'INIR s'est mis en place et c'est dans cette dynamique que nous avons penser l'ensemble de la démarche, avec, pour le dire très rapidement, et puis peut-être on y reviendra, avec 12 personnes qui composent un collège, hein, et puis au quotidien des référents de situation, psychologues, juristes, professionnels de l'aide aux victimes, qui sont en relation avec les personnes victimes qui s'adressent à nous.
Un an après la remise du rapport de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église catholique, où en est-on de ce rapport? Vous avez la parole au 04 72 38 20 23 avec vos témoignages.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Trois invités sont avec nous, Véronique, dans cette première partie. Véronique Garnier, Patrick Goujon et Marie Derain de Vaucresson.
Véronique Garnier, entrons dans le vif du sujet et commençons à évoquer les questions que nous posions dans l'introduction de cette émission. Est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a changé depuis le rapport Sauvé? Alors, quelque chose a changé en vous, mais est-ce que quelque chose a changé dans l'Église et plus largement dans la société, dans le regard qu'on pose désormais sur les victimes d'abus au sein de l'Église catholique?
Alors oui, je pense que en effet il y a un avant et un après, mais ce n'est pas un avant et un après, comment dire, où tout est rose après. L'impression que j'ai, c'est qu'un certain nombre de personnes ont en effet sont entrées dans une sorte de processus pour de prise de conscience. Mais la prise de conscience, elle n'est pas totale en 5 minutes. C'est un long processus pour commencer à un peu comprendre exactement ce qu'on a vécu et comprendre la responsabilité de l'institution et de finalement chacun dans l'institution. Et je pense que là, il y a une sorte de deuil à faire. Le deuil de l'Église, aussi belle qu'on aimerait qu'elle soit, et qui en fait ne l'est pas tant que ça. Une sorte comme si l'Église tombait de son piédestal et qu'il faut faire le deuil de cette Église-là imaginaire qu'on voudrait si belle. Et alors je pense qu'un certain nombre de personnes sont rentrées dans cette prise de conscience progressive qui fait que ces personnes-là nous accueillent un peu plus facilement, avec un peu plus de douceur. Mais d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui, un peu au contraire, se sont peut-être durcies, ont été peut-être trop choquées ou ne pouvaient pas encaisser, si on peut dire, ce rapport, et du coup peut-être se sont fermées. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un peu voilà, deux sortes de personnes. Et malgré tout, pour ma part, ça me permet peut-être de me sentir un peu moins rejetée en bloc par les gens de l'Église, ouais, catholique.
Patrick Goujon, vous avez vous aussi ce sentiment que ce rapport Sauvé a disons, polarisé un peu la perception de cette réalité, d'un côté des personnes qui dont les yeux se sont ouverts et d'un autre côté des personnes pour qui c'est impensable, ça reste impensable.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Il y a eu plusieurs phases. On a parlé de la remise du rapport, de Lourdes. Donc, on peut dire on est passé de la stupéfaction à la honte, à la reconnaissance. Mais décrire ces différentes phases dans lesquelles on est passé risque de masquer aussi le fait que le temps n'est pas le même pour les différentes personnes ni les différents acteurs. C'est-à-dire le temps de l'Église institution n'est pas le temps des victimes dont le traumatisme reste toujours au présent. Et puis, moi, j'ai été frappé du grand nombre de fidèles et là aussi des réactions très diverses et du temps différent de réactions. De ceux qui à la fois ont reconnu la gravité, ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment risqué, en fait, du travail en Église. Parce que un grand nombre de chrétiens disent « Mais écoutez, ça va, les victimes, on vous a entendu, il y a eu de la reconnaissance, les évêques ont demandé pardon, vous avez reçu de l'argent. » Moi, je l'ai entendu. Hein. Donc, ça y est, quoi. L'affaire est réglée. Et je peux comprendre, parce que c'est tellement, comme vous l'avez dit, sidérant, que personne n'a envie de porter le poids de la responsabilité, de la gravité de fautes qui détruisent des vies. Donc on pense, parfois en toute bonne foi, parfois avec de la mauvaise foi, mais j'allais dire c'est même pas une question de bonne ou de mauvaise foi, on pense que ce qui a été fait a suffi, va suffire, alors qu'on est face véritablement à de l'irréversible. J'ajouterais que c'est peut-être la tentation aussi de l'Église de penser aujourd'hui qu'elle a les moyens de réparer, qu'elle a mis véritablement énormément de moyens en place et que...
Financiers, vous voulez dire ou pas seulement
pas seulement, non, il y a des moyens humains, il y a beaucoup de réflexion, d'accompagnement, voilà. Mais le risque, c'est à nouveau de penser, mais nous, Église, nous avons les moyens de réparer et nous redeviendrons cette Église unie, sans souffrance, etc. Mais ça, c'est la plus grande des illusions.
Et le premier à nous rejoindre ce matin, c'est vous, Joël. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je fais partie des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Et je n'ai pas envie forcément d'apporter mon témoignage, je l'ai déjà appelé à apporter ailleurs, mais c'est plus un peu regarder un an après où on en est. Et donc la première chose, c'est que dans la lettre du Éric de Moulin-Beaufort le 8 novembre, le mot pardon ou pardonner revient 7 fois. Or, les évêques reconnaissent à Lourdes la responsabilité des responsables de l'Église. Okay, très bien. Mais donc, il demande, dans cette lettre, il demande pardon à Dieu, mais il ne demande pas pardon aux victimes. Donc, c'est quand même le comble. Et ça, je reçois ça comme un coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire, encore une fois, on nous rajoute de la souffrance parce qu'on ne demande pas pardon. Alors, on emploie une espèce de charabia pour nous expliquer pourquoi ils ne demandent pas pardon. Et ils confondent la demande de pardon des coupables et le fait que la victime accorde son pardon. C'est deux notions différentes. Donc moi, je pensais qu'ils étaient intelligents et qu'ils seraient capables de ne pas mélanger ces deux notions.
Merci beaucoup, Oui, allez-y, Joël. Allez-y, pardon.
Deuxièmement, le 12 octobre, 7 jours après la parution du rapport Sauvé, Éric de Moulin-Beaufort a écrit « Il faut que dans toutes les paroisses, tous les services, tous les mouvements, on travaille le rapport Sauvé. Pour moi, travailler un document de 548 pages, c'est pas une réunion qu'il faut faire dans toutes les paroisses, c'est 20 ou 30 réunions. Et je pense qu'un an après, pour moi, il y a eu quoi, 1 ou 2% des paroisses qui ont fait des réunions. Ils ont fait des intentions de prière universelle. Mais ceux qui ont vraiment fait des réunions en demandant le témoignage de victimes, je pense qu'on est moins de 2%. Donc un chef de service qui dit « il faut travailler » et qui ne vérifie pas derrière que réellement c'est fait sur le terrain, ben pour moi, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Donc les évêques, ils devraient donner des instructions pour que dans toutes les paroisses, on parle sur ce rapport Sauvé.
Voilà. Merci beaucoup Joël pour ce témoignage au 04 72 38 20 23. On parlera d'ailleurs plus concrètement dans la seconde partie de l'émission. On montrera toutes ces actions qui ont été mises en place dans certaines paroisses, certains diocèses. Véronique Garnier, j'aimerais vraiment vous faire réagir sur ce témoignage de Joël.
Alors je trouve aussi que c'est difficile de se saisir de ce rapport et de ce travail. Alors moi, quand j'étais à Lourdes au mois de novembre, c'est vrai, en m'adressant aux évêques, je leur ai dit, c'était un peu redondant, mais un peu exprès, que en fait, le principal travail, travail qui attend l'Église dans les années qui viennent, et quand je dis l'Église, c'est pas seulement les évêques, mais c'est en effet jusqu'au fin fond des paroisses, des mouvements, ce qui attend tout le monde, le principal travail aujourd'hui, qui est primordial et prioritaire, redondant de façon intentionnelle, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de travailler pour que on retienne des erreurs et de ces malheurs qui ont détruit tant de vies, pour que au présent on puisse prendre soin de ces personnes au moins un petit peu. Je ne sais pas si c'est les réparer ou les restaurer, mais en tout cas prendre soin d'elle, et puis travailler à fond tous ensemble pour que ça ne se renouvelle pas. Or là, je suis d'accord avec Joël, qu'il ne suffit pas d'une petite réunion où on dit ses émotions par rapport au rapport sauvé, ou une petite réunion où il y a finalement 90 personnes sur tout un diocèse, et dont 4 prêtres. Je pense que là, l'Église n'a pas pris la mesure de la tâche, du travail énorme qui est à faire. Et beaucoup se sont enfilés dans le synode ou bien veulent évangéliser. On est reparti, comme disait aussi Patrick, en effet, bon, on les a entendus, il y a eu un truc à Lourdes, on va leur donner des sous, et ben on va pouvoir recommencer comme avant à évangéliser. Mais non, je crois que aujourd'hui, il n'est pas vraiment tant question d'évangéliser, en parlant d'évangile, en faisant des congrès, des tas de choses extraordinaires, mais plutôt de vivre l'évangile. Et alors, il se trouve qu'aujourd'hui, étonnamment, l'évangile, vous avez entendu peut-être comme moi tout à l'heure, il nous parle de prêtres qui ont vu quelqu'un par terre et qui sont passés à côté parce qu'ils avaient mieux à faire. Et puis, il y a quand même un qui s'arrête. Je me dis qu'aujourd'hui, la seule chose qui est à vivre dans l'Église, du plus petit au plus grand, si on pouvait dire, c'est-à-dire de paroissiens, les mouvements, les évêques, les prêtres, c'est d'entendre cette question. Qui est le prochain de l'autre? Et moi, la question aujourd'hui, je dis, mais qui veut bien être le prochain des personnes qui ont été victimes? Qui veut être notre prochain? Nous penser? Qui veut prendre soin de nous? Qui veut même payer pour qu'on soit mieux? Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la seule chose que l'Église devrait avoir comme pendant plusieurs années,
c'est essayer de répondre à ces questions
de travail. Ouais. C'est ça.
Alors,
et pourquoi? Pour que ça recommence pas avec d'autres jeunes.
Alors, voilà, ou celle qui prend soin justement de celui qui est à terre, Marie de Vaucresson, vous en faites un peu partie quand même, de ceux et celles qui accueillent, qui écoutent, qui essaient de comprendre comment réparer, restaurer. Donc, les personnes que vous accueillez aujourd'hui, globalement, qui sont-elles, ces personnes? Est-ce que elles ont été interrogées lors de l'enquête qu'a menée la commission Sauvé, ou est-ce que ce sont d'autres personnes? Comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, ce sont 1005 personnes qui se sont adressées à l'ENIR, donc c'est
depuis un an à peu près.
Pas depuis un an, parce que depuis 7 mois. En fait, on a commencé activement en février dernier. Donc c'est à la fois énorme, considérable, et à la fois très très peu au regard des chiffres qui étaient annoncés par la CIAZ. On peut déjà s'interroger sur pourquoi davantage de personnes ne s'adressent pas à nous. Alors il y a le fait qu'on soit pas complètement rodé, et que c'est connu et que c'est coûteux d'être dans l'attente que nous imposons aux personnes victimes. Donc un certain nombre d'entre elles attendent, et certaines nous le disent d'ailleurs. D'autres disent aussi qu'elles ne sont pas pressées. Et enfin, des personnes disent qu'elles ne sont pas prêtes. Et pour répondre à votre question, quelles sont ces personnes victimes? En réalité, d'abord, on a observé qu'il y avait plus de femmes que dans ce qu'avaient identifié les travaux du rapport de la CIAZ, puisqu'on est depuis le début à un petit peu plus de 30% de femmes, tandis que le rapport de la CIAZ nous parlait de 20% de femmes. Ce que nous avons observé aussi, c'est que la très grande majorité sont des personnes âgées de 50 à un peu plus de 80 ans, mais un certain nombre d'entre elles sont aussi plus jeunes, et parmi lesquelles il y a même des très jeunes, c'est-à-dire des personnes qui ont été victimes dans les 15 dernières années, plutôt dans les mouvements, associations, aumôneries, et moins dans les paroisses. Et ces personnes jeunes sont concernées par des faits que l'on peut dire moins graves, en mettant énormément de précautions autour de cette expression. Et ce sont des personnes aussi qui, du fait de la réactivité des associations notamment, ont eu des traumas qui sont aussi moins importants. Mais ce qu'on peut relever, c'est que ces personnes, elles s'expriment aussi sur la volonté de faire avancer le sujet et de le faire connaître pour donner une vraie réalité à cette question, y compris dans les dernières années, pour ne pas minimiser le fait que nous ne sommes que sur des affaires anciennes et que les acteurs aujourd'hui dans l'Église sont sans doute moins concernés. Il faut bien se dire que ça n'est pas vrai, même si des efforts ont été faits, même si des réponses ont été apportées, il y aura toujours des risques importants. C'est pourquoi il faut agir très intensément sur la prévention.
Patrick Goujon, qu'est-ce que vous pensez de l'INIR ?
Qu'est-ce que je pense de l'INIR ? Beaucoup de bien sur la nécessité d'avoir une telle instance, de la difficulté de la tâche que cela représente. J'ai été très touché, je le dis d'autant plus volontiers que je l'ai déjà dit à Marie de Vaucresson, le mois dernier, les victimes qui avaient saisi cette instance ont reçu un courrier qui reconnaissait les difficultés de la mise en œuvre. Et je crois que c'est extrêmement important, c'est-à-dire que pour des victimes, et j'en fais partie, moi je suis victime d'un prêtre diocésain, l'attente peut simplement raviver le traumatisme, c'est-à-dire d'être de nouveau plongé face à une institution, là qui n'est pas l'Église, mais qui est une institution indépendante, mais commissionnée par l'Église, de se dire, ben voilà, à nouveau, on est face à un silence. Donc voilà, il y a un vrai risque d'incompréhension en fait entre les victimes et toutes ces instances. Moi, ce que je crois vraiment important à dire, c'est que et Marie de Vaucresson vient de le dire, la gravité des crimes et de leurs conséquences, dans un premier temps, elle ne se mesure pas. C'est-à-dire, elle est au-delà du quantifiable, elle est au-delà de, parce qu'elle, quel que soit le geste, vous savez, il y a des gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent vraiment, ou des paroles qui n'ont l'air de rien, marquer à vie et détruire. Ce qui est aujourd'hui important, c'est que grâce à des associations, à de nombreuses associations de victimes, grâce à la prise de conscience faite en Église, grâce à ces institutions comme l'INIR et la CRR, hein, la commission parallèle pour les agressions qui ont été commises par des religieux, eh bien, grâce à ces ensembles de dispositifs et à des prises de conscience, je pense que le temps de prise en charge, le temps de réponse des victimes et la place que les victimes peuvent avoir a commencé à se transformer. Mais on est vraiment dans du début, dans de la mise en route. Il faut ni minimiser ce qui est fait, ni penser qu'on a réglé la question. De toute façon, ce sont des questions qui ne se règlent pas.
Allez, un peu plus de 9h30 sur RCF. On va marquer une petite pause dont Je pense donc j'agis. Vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23. Venez nous parler du rapport Sauvé. Dites-nous si vous avez pu constater quelques évolutions au sein même de l'Église sur la place du prêtre et sur la conception du cléricalisme. Et dites-nous si vous avez le sentiment que les préconisations ont été prises au sérieux. 04 72 38 20 23. Vos témoignages par mail également à direct@rcf.fr. À tout de suite. Big life. I would lie awake at night. I would stare. I would sing to the ceiling. Were you listening? Ooh, you brought me here to a city of dreams and fears. Ooh, what do I do from here? I will trust in you. Up at night, how to live, what to decide, do we ever learn whether to turn left or right? Ooh, the same fears, ooh, repeatedly appear. I Will Trust, c'était Mélanie Penn sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Et nos trois invités dans cette première partie, Véronique Garnier, Patrick Goujon et Marie Derain de Vaucresson.
Véronique Garnier, on a parlé des moyens que l'Église a mis en œuvre, a mis en place pour contribuer à la réparation des victimes, à leur restauration. Ces moyens, évidemment, ils passent aussi par des moyens financiers. En quoi est-ce que l'argent peut contribuer à une forme de réparation ?
Alors, depuis qu'on a travaillé sur ce thème avec les évêques les trois dernières années, on a toujours parlé, il y avait un groupe de travail réparation. Et on avait dit, la réparation, attention, ce n'est pas que l'argent. Mais malheureusement, ça s'est un peu concentré uniquement sur l'argent. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, cette instance... de l'INIR qui est posée, mais la même chose, c'est RR, c'est vraiment une occasion inespérée pour moi-même, et j'espère pour d'autres, j'espère pour le plus possible d'autres personnes, de régler des comptes avec mon passé d'abord, avec ma propre histoire, et puis aussi avec l'Église en l'occurrence. Mais quand je dis régler des comptes, c'est pas régler des comptes, tu m'as fait du mal, je vais te casser la gueule, ça va bien, comme ça, ça va aller mieux. Non, c'est vraiment dire, on s'assoit, on parle, on s'explique. Je t'explique tout le mal que ça m'a fait, tous les préjudices. Je t'explique aussi les préjudices pour ma vie d'adulte, en quoi ça a dévié ma vie, comment ma propre famille en a souffert, mon conjoint, mes enfants, voilà. On prend le temps de s'expliquer tout ça. Et puis, au bout du compte, en effet, on va ensemble voir quelles sont les choses qui vont me faire du bien et qui vont m'apaiser. Et ce qui me venait, c'était, moi, je voudrais être quitte avec mon histoire, je voudrais être quitte avec l'Église.
Qu'est-ce que ça veut dire, être
alors,
quitte
Voilà. Alors, comme j'aime les mots, j'ai cherché exactement l'étymologie de cette expression qui me venait, qui m'habitait fortement. Et en fait, quitte, être quitte, ça vient du latin quietus, qui signifie tranquille. Le contraire de inquiet, en fait, c'est quiet. Et voilà. Et je me dis, oui, pour moi, c'est l'occasion. Cette INIR me donne l'occasion inespérée, et je pense que c'est maintenant ou jamais, de pouvoir être quitte avec ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire on va rétablir une quiétude,
je pourrais un équilibre,
être plus tranquille avec mon histoire, mais aussi peut-être avec l'Église. En effet, les abus explosent les relations. Quand quelqu'un est traité comme un objet, on n'est pas en relation avec un objet, on est en relation avec une personne. Donc peut-être en effet qu'après avoir mis les choses à plat et peut-être une somme d'argent permet aussi de dire, ben voilà, on a réglé nos comptes, je te dois plus rien. Alors, l'Église me devait justice, d'une certaine façon.
Marie Derain de Vaucresson, est-ce que ça passe la plupart du temps par de l'argent, ou pour certaines victimes, c'est pas le problème, ou en tout cas, c'est pas ça la solution?
Alors, ça n'est jamais la solution, comme la réparation, et notamment la réparation financière, n'est jamais une réparation globale. Ça veut dire qu'on est dans une démarche d'accompagnement qui est bien plus vaste. On a observé qu'un petit peu plus des deux tiers des personnes qui s'adressent à nous demandent une réparation financière d'emblée. D'autres ne savent pas au départ, et puis en discutant évoluent vers des attentes du côté financier. Et on observe que plus de la moitié des personnes qui s'adressent à nous, elles souhaitent être dans une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire que la réparation financière ne suffit pas, et on a différentes formes, beaucoup autour de la reconnaissance, et comme vient de le dire Véronique Garnier, le besoin de pouvoir redire un certain nombre de choses à des responsables d'église avec qui elles ont été directement en lien ou pas, mais de pouvoir faire comprendre quel a été leur parcours, quels ont été les empêchements dans leur vie, et puis aussi souvent d'avoir des explications précises sur les parcours de prêtres, sur le fait qu'il y ait pu avoir d'autres victimes. Et il y a aussi des tas de personnes pour lesquelles les attentes sont diverses. On les construit avec elles, mais ça peut passer par de l'art-thérapie, par de l'écriture, par différentes formes autour de l'expression, voire des démarches s'approchant davantage de la justice restaurative, c'est-à-dire des explications dans la perspective de pouvoir être dans une relation apaisée, notamment entre des évêques et des personnes victimes.
Patrick Goujon, vous vous sentez apaisé, vous, aujourd'hui, restauré, ou bien vous êtes et vous serez toujours dans une démarche, finalement, de reconstruction, et vous avez recours encore aujourd'hui à des lieux, des personnes pour vous aider?
Ah oui, ça c'est évident que j'ai toujours recours à des personnes pour m'aider, comme vous dites. Concrètement, voilà, je suis toujours en psychothérapie. Mais ça suffit pas non plus. C'est-à-dire que les psychothérapies, elles peuvent aider à vivre dans la mesure où il y a d'abord un environnement humain qui soutient, qui fait place, avec qui on vit, et on vit autre chose, hein. Mais, et cette reconnaissance institutionnelle, moi je voulais dire, De quoi parlons-nous quand nous parlons de d'agression sexuelle en église? On parle pas de cléricalisme. Je suis un peu irrité par le recours à cette expression-là, parce que à nouveau c'est de la poudre de perlimpinpin pour masquer de quoi il s'agit véritablement, c'est-à-dire de violence. Il est question de violence, parfois mortelle. Et donc, vous voyez bien que la réponse à quelqu'un qui a subi une violence destructrice, et destructrice au long cours, hein, si les victimes, Marie de Vaucresson vient de nouveau le dire, se manifestent à l'âge de 50 ans jusqu'à 80 ans, c'est pas parce qu'elles ont hésité en se faisant des cas de conscience. C'est que souvent les situations s'aggravent avec l'âge, et puis surtout, c'est qu'il a été impossible de parler du fait du traumatisme. Je veux dire, il n'y a même pas besoin que des gens vous empêchent de parler. Ça fait partie du traumatisme même. Donc vous voyez que pour une telle destruction, et Véronique Garnier le disait, des personnes ont été réduites à des objets. Hein, c'est ça le propre, en particulier, de l'agression sexuelle. Eh bien, l'argent peut tout à fait ou bien faire rebasculer du côté de l'objet, c'est-à-dire « je vous achète ». Hein, vous savez, comme ce propriétaire d'une grosse voiture qui fait tomber un vélo de la route, et puis qui, pour ne pas mettre de constat à l'amiable et peut-être le risque d'une amende, va dire, écoutez, je vous fais un chèque, je vous donne de l'argent et puis on est quitte. Et vous voyez, tout peut être lieu d'ambiguïté. C'est-à-dire, l'argent, elle peut devenir la prise en compte de la réalité matérielle et physique des dégâts provoqués. Et dans ce cas-là, elle fait partie de ce qui va aider une victime à se relever, mais de manière beaucoup plus globale, mais à se relever comme personne. Ou bien elle peut réenfermer la personne dans le statut d'objet qu'on achète, dont on achète le silence. Alors je ne dis absolument pas que c'est l'intention de l'Église et de l'INIR, c'est vraiment pas mon propos.
Mais c'est vraiment du cas par cas.
C'est du cas par cas, on est dans de la vie et donc du symbolique. Donc oui. C'est-à-dire qu'une seule chose ne suffira jamais. Oui. Ça, c'est ça qui est capital, je crois.
Marie de Vaucresson.
Oui, sur la question de l'argent, c'est une question qui est très importante et qui est très, très propre, enfin très personnelle à chacune des personnes victimes. Ce qu'on a observé aussi dans les premières réponses que nous avons pu apporter, c'est qu'un certain nombre d'entre elles disent qu'elles souhaitent entrer dans une démarche financière pour matérialiser la reconnaissance de l'Église, mais que l'argent ne sera pas pour elle. Et dans un certain nombre de cas de figure, c'est de l'argent qui est destiné à des associations. Et on a déjà identifié sur les versements qui ont été faits à peu près un quart de situations comme celle-ci. Donc c'est important. Et puis d'autres le destinent à leurs enfants ou à un temps partagé avec leurs enfants. Et un monsieur a même dit, ça c'est Antoine Garapon qui me l'a rapporté, l'argent n'est pas pour moi, ce sera pour ma première femme à qui j'ai rendu la vie impossible. Vous voyez comment la répercussion de la réparation s'organise.
Patrick Goujon.
Oui, cet élément-là est extrêmement important. On parle des victimes, mais il y a l'entourage des victimes. Et moi, j'ai été frappé, parce que beaucoup de gens m'ont écrit, de voir combien, effectivement, parfois, il y a des enfants qui m'ont écrit en disant « Je pense, avec certitude, que mon père a été agressé par un prêtre qui ne nous en a jamais parlé. » Et ça a pesé sur la vie de la famille. Et on a retrouvé des documents dans la maison qui permettent de penser que c'est effectivement ça qui a joué. J'allais dire, il y a vraiment, comme on parle de déflagration, hein, il y a une onde de choc de l'agression. Et voilà, donc là, l'argent peut être un élément essentiel de la démarche de restauration, mais sera situé de toute façon dans une échelle d'autres mesures. Et surtout, rien ne se fera sans qu'il y ait eu un accord préalable, une parole des victimes. Il n'y a pas de traitement systématique, il n'y a pas de traitement automatique plutôt des victimes. Bon, ça, je me souviens d'Antoine Garapon qui, dès le début, disait « mais on ne va pas établir un barème, sinon ça serait vraiment une tarification des agressions ». Et ça, c'est vraiment la chose la plus odieuse. Rendre la parole, c'est capital, mais c'est individuel. C'est peut-être ça, je termine juste là-dessus. Mm-hmm. Je comprends tout à fait la colère de Joël au départ, tout à l'heure, de la prise face à la prise de parole des évêques à Lourdes, mais je crois que alors c'est pas pour excuser qui que ce soit, mais il n'y aura pardon, le pardon aux victimes, il peut pas se demander avec un micro devant des milliers de personnes. Le pardon, même si un évêque demande pardon, c'est à lui d'aller trouver la victime individuellement. L'Église, vous savez, dans le sacrement du pardon, il y a une vingtaine, trentaine d'années, on faisait des absolutions collectives dans les églises. Et puis Rome a dit non, ça correspond pas à ça, au pardon. Ben exactement, j'allais dire, l'Église est en train de découvrir ce qu'elle proclame, c'est que le pardon, c'est une démarche nécessairement individuelle. Mm-hmm. Et il y a le pardon que la victime peut accorder, je dis bien peut accorder, mais la demande de pardon, elle ne peut se faire qu'individuellement. Et ça, c'est vrai que c'est un travail considérable.
Véronique Garnier, l'accueil qu'on vous fait, la manière dont on vous écoute a changé depuis un an?
Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais peut-être rajouter
réagir
quelque
aussi.
Chose au sujet.
Allez-y.
Juste avant, en effet, il faut bien comprendre qu'on a été considérés comme des objets, ce qui a coupé une relation presque à tout jamais. Comment renouer un jour cette relation? Est-ce que ce sera possible? Il n'y a rien de moins sûr. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est vraiment, et là c'est une ligne de crête, c'est difficile, c'est vraiment aider les personnes qui ont été victimes à être sujet, à redevenir sujet, à être sujet de leur, même de leur relèvement, de leur restauration. Et on ne veut pas être l'objet de compassion de l'Église. On ne veut pas qu'on nous fasse la charité. Non. Ce qu'on demande, c'est qu'on redevienne sujet face à d'autres sujets. Mm-hmm. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi ça va être à chaque fois du sur-mesure, du cas par cas, et avec beaucoup de précautions, parce que comme l'a dit Patrick, en effet, l'argent peut être, on peut devenir une sorte d'objet de la charité de l'Église qui nous paye, mais nous, on refuse ça. On est sujet et on va d'égal à égal se parler, se dire, et ça, c'est vraiment très important de comprendre que quelqu'un qui a été un objet a besoin d'être sujet. Mmh. Et peut-être que parfois la colère qu'on exprime ou même l'agressivité, d'une certaine façon, dit ce fait qu'on est sujet. Et par exemple, oui, beaucoup de personnes quand même sont impatientes et disent « mais c'est pas possible, ça fait trop, on a déjà attendu aussi longtemps ».
Ça va pas assez vite.
Ça va, voilà. Mais comme l'a dit Patrick aussi, le temps n'est pas le même pour nous. On est dans une espèce d'urgence vitale, et cette urgence vitale, c'est d'être considérés comme des sujets,
alors,
des personnes.
Alors, justement, le fait d'être.
Et si on arrive, si on est 1000 à arriver ensemble aux urgences d'un hôpital, vous comprenez bien que l'hôpital est débordé. Donc, d'une certaine façon, c'est pas étonnant que l'UNIR soit débordé. Mais bien sûr, il faut.
Je crois que les moyens sont mis quand même.
Voilà, mais cette urgence à être reconnue comme des sujets.
Alors l'écoute Véronique Garnier, quand on vous, comment est-ce qu'on vous considère aujourd'hui? On vous invite à témoigner plus volontiers. Il y a une manière de vous accueillir qui est différente désormais.
Alors, peut-être que le regard a un peu changé, par exemple, et que on est peut-être quand même en effet passé un peu plus de victimes à témoins. Parce qu'une fois, j'étais dans une deux trois jours de formation pour ce sujet, et des personnes à l'arrivée ont dit qu'ils étaient venus écouter et entendre des victimes, et même certains ont dit des abusés. C'était un peu horrible. Mais à la fin, ces mêmes personnes ont remercié les témoins. Donc quelque chose en deux jours a changé dans leur façon de nous voir.
Et, ça, et de vous désigner.
Oui, et de nous voir, et voilà, et même de voilà, comment ils parlent de nous. Donc ça, peut-être que petit à petit, des personnes commencent à nous voir autrement que comme des victimes, et plutôt comme des témoins. Et moi, vraiment, ce que j'espère, c'est que plus en plus de personnes vont comprendre qu'on a quelque chose à apporter à l'Église, qui est tout à fait spécifique, particulier, et que d'une certaine façon, personne d'autre que nous tous, pouvons apporter à l'Église. C'est quelque chose peut-être d'une restauration, surprise, peut-être même pour l'Église, je ne sais pas.
Et je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour réagir en direct. Patrick Goujon, vous vouliez prendre la parole?
Oui, dans ce que vient de dire Véronique, je soulignerai, moi, ce qui m'a frappé, j'ai souvent été appelé à témoigner du fait de mon livre, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont jamais été victimes d'agressions sexuelles se sont reconnues dans le récit que j'ai écrit. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce que les victimes mettent à nu et dont elles souffrent, c'est la nécessité pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, d'être regardé avec un regard qui dit à chacun « tu peux, tu es capable ». Et si nous apprenons cela tous, et si on l'apprend par les victimes, mais si on l'apprend tous en Église et même dans la société, on voit bien le mouvement social et général sur cette question-là, de se regarder les uns les autres avec ce regard qui considère que chacun est capable d'eux, et chacun sera capable de ce dont il est capable, eh bien, là, il y a la possibilité de vivre ensemble. Ce que Agatha Zielinski, philosophe, appelle la sollicitude dans le dernier livre que les Xavier viennent d'écrire, « J'entendrai leur cri », qui est vraiment un très beau livre que je recommande, un an après la SIAZ. Eh bien, cette sollicitude, ce regard qui rend capable, parce que quand on regarde quelqu'un en disant « je crois que tu es capable », eh bien, cette personne devient capable, et ça l'enrichit.
Marie de Vaucresson.
Oui, je trouve très intéressant parce que tous les principes de la justice restaurative viennent d'être posés en 3 minutes entre ce que nous a dit Véronique et ce que vient de nous dire Patrick. C'est-à-dire vraiment placer la personne victime au cœur de la démarche, lui redonner du pouvoir d'agir et, comme diraient d'ailleurs les Québécois inventeurs de cette justice restaurative, redonner de la capacité, être capable. Et l'enjeu, dernier enjeu, c'est que dans la démarche de la justice restaurative, bien sûr, on contribue à la restauration, à la réparation de la personne victime, mais aussi du lien. Et je voudrais faire une autre référence à quelque chose de très connu, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. La démarche vérité et réconciliation, c'était de pouvoir restaurer, réparer chacune des personnes, mais surtout réparer aussi la nation et le lien de chacune de ces personnes avec la nation pour pouvoir faire société. Et les enjeux aujourd'hui pour l'Église, ils sont dans cette dynamique-là, quand c'est possible et souhaitable même. Il y a un certain nombre de personnes victimes pour lesquelles elles ne le souhaitent pas et c'est impossible même d'être dans ce lien de réconciliation. Mais en revanche, il faut à chaque fois pouvoir l'envisager.
Est-ce que l'INIR, Marie de Vaucresson, a une durée de vie qui a déjà été fixée ou bien cette instance fonctionnera tant que ce sera nécessaire?
Alors, elle a une durée de vie qui a été fixée par rapport à mon mandat qui est de 3 ans renouvelable une fois. Une fois, ça veut dire peut-être plus une année, plus 2 années ou peut-être plus 3 années. On reconsidérera les choses le moment venu. Moi, ce que je crois, c'est que la SIAZ a fait un état de l'histoire à un moment donné sur ces questions et que l'INIR est là justement dans la poursuite de ce travail de la SIAZ pour tourner une page. Ça ne veut pas dire passer à autre chose, parce que pour les personnes victimes, ce ne sera jamais ça. En revanche, c'est pour marquer un temps. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant et un après SIAZ. Il doit y avoir un avant et un après INIR. Ça veut dire que si l'INIR dure éternellement, bon, c'est un petit peu fort d'y aller comme ça, mais enfin, en fait, trop longtemps, on aura mal traiter cette question-là. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin, et que ce soit suffisamment long pour que les personnes victimes puissent s'adresser à l'INIR et que l'INIR puisse faire son travail, mais pas trop long non plus, sinon ce serait signer l'échec de la démarche globale.
Et enfin, est-ce que cette instance a des relais en province ? Parce que vous êtes à Paris, mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas à Paris et qui auraient besoin de prendre contact avec vous ?
Alors tout le monde, quel que soit son lieu de vie, peut prendre contact avec nous. Nous sommes localisés à Paris. Néanmoins, il y a des référents de situation qui sont en région. Et puis, les référents de situation qui sont en Île-de-France peuvent aussi se déplacer. Ça s'est déjà produit.
Pour aller à la rencontre de personnes victimes.
Oui, en particulier quand elles sont dans des vulnérabilités particulières qui les empêchent de s'adresser à nous seules ou bien avec des urgences vital. Ça a été le cas pour une personne qui est décédée juste après que le collège de l'INIR ait pris sa décision. Donc on peut envisager ça, et la question que vous soulevez, elle est extrêmement importante, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est plus de proximité, plus d'humanisation dans nos interventions, c'est-à-dire plus de contact direct. Et il faut que nous passions là aussi un changement d'échelle sur ce registre-là, ce qui veut dire que nous devons envisager cette proximité géographique aussi.
L'INIR, c'est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Patrick Goujon, vous avez reçu le prix de la liberté intérieure pour le livre que vous avez publié aux éditions du Seuil, « Prière de ne pas abuser », un petit livre très intense, remarquablement bien écrit. Qu'est-ce que ce livre a changé pour vous, et qu'est-ce que ce prix a changé pour vous ? En une minute et demie.
En une minute et demie. Non, mais c'est vrai que ce prix m'a fait prendre conscience du prix, sans jeu de mots, de la liberté intérieure. Et du cadeau qui m'a été fait par mon histoire de tenir à la liberté. De tenir à la liberté et de découvrir... alors ça, c'est grâce à la spiritualité ignatienne, mais chaque chemin trouve sa voie. Mais de découvrir que Dieu désire tellement notre liberté que nous pouvons trouver les moyens. Alors je crois reconnaître aussi la chance, ça peut paraître étonnant d'entendre ce mot-là dans la bouche d'une victime, mais non pas la chance d'avoir été agressée, ça, il n'y en a aucune, mais des rencontres que j'ai faites. Et vous savez, en plaisantant, je dis souvent, j'ai reçu le prix, mon livre a reçu le prix de la liberté intérieure, mais pour ma part, c'est celui du combat intérieur, parce que ça demeure, et ça demeure vrai pour quiconque. Mais c'est vrai que ce prix m'a permis la reconnaissance du don que l'esprit fait de pouvoir vivre de la liberté. Et c'est un combat, c'est un travail, la liberté, c'est vraiment un travail.
Et vous continuez de le mener, ainsi que Véronique Garnier, qui a été également avec nous dans cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette première partie de « Je pense donc j'agis » à l'occasion du premier anniversaire de la remise du rapport Sauvé. On l'a dit au cours de cette émission, il y aura eu un avant et un après ce rapport, mais beaucoup reste à faire et nous n'aurons jamais terminé d'évoquer ce sujet. Nous poursuivrons sur RCF l'évocation de cette question à travers plusieurs thématiques, et nous vous donnons rendez-vous très vite pour poursuivre cette réflexion. Merci beaucoup à tous les trois.
Et on va poursuivre dans un instant,
absolument.
Véronique, quand même, avec les diocèses, les paroisses qui ont pu mettre en place depuis un an quelques actions à la fois de prévention, d'écoute. On va faire un petit tour d'horizon dans un instant avec nos trois invités, avec vos appels toujours au 04 72 38 20 23 et vos témoignages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.